Nous abordons maintenant le sujet qui va appeler notre attention pendant toute la séance. C'est la communication de Mathias Guillaumard, président de la Cour européenne des droits de l'homme. Mathias Guillaumard est né à Guérande en 1968. Il a eu un parcours estudiantin brillant. Après une licence en lettres modernes à l'Université de Nantes, il est diplômé et lauréat de Sciences Po à Paris, puis de l'ENA. À sa sortie, il choisit le Conseil d'État, où se déroule l'essentiel de sa carrière. Ses qualités professionnelles et personnelles le conduisent à être recruté pour de nombreuses responsabilités sensibles. Citons, parmi bien d'autres, secrétaire général de la Commission des sondages, rapporteur général du Haut Conseil à l'intégration, commissaire du gouvernement puis rapporteur public près la section des contentieux et le tribunal des conflits, rapporteur général de la Commission supérieure de codification. Parallèlement, il est enseignant, professeur à Sciences Po et à l'ENA, professeur de droit public à l'Université de Paris Sud, puis à l'Université de Paris II Panthéon Assas, secrétaire général de l'Institut français des sciences administratives. Parallèlement, il publie plusieurs ouvrages, notamment « Les sanctions administratives » en 2014 et « Contentieux administratif » en 2024. Le 22 juin 2020, il est élu juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Il en est président de section à partir de mai 2024. Enfin, le 28 avril 2025, il est élu président de la Cour européenne des droits de l'homme. Il est le troisième Français à accéder à cette éminente responsabilité après René Cassin et Jean-Paul Costa. Quel parcours ! Monsieur le Président, à vous la parole.
Monsieur le Président, cher Jean-David Lévite, Monsieur le Secrétaire perpétuel, cher Bernard Stirn, Monsieur le Chancelier de l'Institut, cher Xavier Darcos, Monsieur le Vice-président, cher Rein Corsia, Mesdames et Messieurs les académiciens et correspondants. L'Assemblée consultative déclare que la torture ne peut être tolérée, quel qu'en soit le but, qu'il soit d'arracher des aveux, de sauver une vie, ou même pour des raisons de sécurité de l'État. L'Assemblée croit que mieux vaudrait encore voir périr la société que de laisser subsister de tels vestiges de barbarie. Monsieur Cox, représentant du Royaume-Uni, lors de la première session de l'Assemblée consultative, en septembre 1949, assemblée qui présida à l'élaboration de la Convention européenne des droits de l'homme adoptée en 1950. Si un jour quelconque, comme nous l'avons vu dans un pays voisin, des tribunaux dits populaires commencent à condamner à mort et à faire exécuter les députés, il y a là un simulacre de justice. Et de tout mon cœur, je déclare qu'une Europe consciente de sa grandeur et de son attachement aux droits de l'homme doit alors intervenir. Monsieur Düsensel, représentant de la Turquie, dans la même séance. Ce que nous devons craindre aujourd'hui, ce n'est pas la prise du pouvoir par le totalitarisme au moyen de la violence, mais plutôt que le totalitarisme ne cherche à s'installer au pouvoir par la voie d'une pseudo-légalité. Monsieur Benevuti, toujours septembre 1949, au nom de l'Italie. Les démocraties ne deviennent pas en un jour des pays nazis. Le mal progresse sournoisement. Une minorité agissante, comme l'on dit, s'empare des leviers de commande. Une à une, les libertés sont supprimées, secteur par secteur. L'opinion publique, la conscience universelle, la conscience nationale sont asphyxiées. Il faut intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Il faut qu'il existe une conscience quelque part qui sonne l'alerte pour les opinions nationales menacées de cette gangrène progressive. Pierre-Henri Tedjène, au nom de la France, toujours en septembre 1949. Lorsque Jean-David Lévit et Bernard Stiern m'ont invité à présenter une communication devant vous aujourd'hui, et c'est un grand honneur, dans le cadre du cycle annuel consacré à la déconstruction et à la reconstruction de l'ordre mondial, et je tiens une nouvelle fois à les en remercier très chaleureusement. Communication que je ferai plus précisément à propos de la place des droits de l'homme dans les relations internationales, j'ai immédiatement pensé au fondateur du système de la Convention européenne des droits de l'homme. L'année dernière, j'ai eu le grand honneur en ma qualité de président de la Cour européenne de célébrer au Palais des droits de l'homme, le 4 novembre, le 75e anniversaire de la Convention. En revenant aux sources du système et en analysant les évolutions survenues depuis 1950, j'ai pu constater à quel point la reconstruction de l'ordre mondial s'était opérée après 1945 autour et sur le fondement même des droits de l'homme. Et dans quelle mesure les tentatives actuelles de déstabilisation, voire de destruction du Rules-Based International Order qui s'était alors mis en place, se traduisaient par une attaque en règle contre l'idée même des droits de l'homme, le principe de leur protection et les acteurs, en particulier judiciaires, chargés d'en assurer le respect effectif. Voilà pourquoi je souhaitais placer mon propos, une réflexion plus personnelle qu'institutionnelle, quoique nourrie de mon expérience de juge international depuis 2020, sous les auspices des fondateurs du système de la Convention. Je n'entends pas revenir aujourd'hui sur la genèse, ni sur les fondements de l'idée de droit de l'homme, ni même sur les critiques qui ont immédiatement accompagné son émergence. Et sur ce point, je renvoie à l'excellent ouvrage de Justine Lacroix et de Jean-Yves Pranchère, Le procès des droits de l'homme. Je partirai de 1945 et de la contribution à la reconstruction de l'ordre mondial de celles et ceux qui avaient éprouvé les dérives de l'entre-deux-guerres, le fracas de la Deuxième Guerre mondiale et l'horreur de la Shoah. Pour m'en tenir aux architectes français de cette reconstruction, René Cassin et Pierre-Henri Tedjenne, ils furent à la fois de grands professeurs de droit, de grands juges, des bâtisseurs du système, rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, premier juge français, puis deuxième président de la Cour européenne pour l'un, rédacteur de la Convention européenne des droits de l'homme, puis deuxième juge français de la Cour pour l'autre. Ils furent aussi des acteurs engagés dans la France libre et la Résistance. Je dirais à quel point ils nous inspirent, à quel point nous, aujourd'hui responsables du système qu'ils ont conçu, nous leur sommes redevables. À eux qui réussirent à concilier la rigueur de la science juridique avec toute la légitimité scientifique de leurs chaires académiques et l'immarcessible force de leurs convictions enracinées dans l'expérience de leur chair d'homme. Le système qui se met alors en place est marqué à différents égards par l'influence des droits de l'homme sur la structure du droit international, pour citer le titre d'un article de référence d'un de mes prédécesseurs, mon ami le président Alexandre Sicilianos. En quelques années, l'ordre international voit se multiplier les instruments de droit international des droits de l'homme, avec une grande variété d'échelles, d'objets et de portées. La Déclaration universelle de 1948, que j'ai déjà citée, suivie des deux pactes des Nations Unies de 1966, la Convention européenne du 4 novembre 1950, qui aura des échos dans d'autres continents, avec la Charte africaine de 1981 et quelques années auparavant, la Convention américaine de 1969. Pour rester en Europe, même si c'est de nombreuses années plus tard, je tiens aussi à faire référence à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il faut voir dans la prolifération de ces nouveaux textes l'expression d'un jus gentium revisité, qui place les droits de l'homme au cœur du droit international, alors que le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle avaient été marqués par la consécration d'un modèle statocentré où l'idée même d'une communauté humaine universelle s'était effacée au profit d'une conception fondée sur les relations interétatiques, le jus inter gentes. Comme l'explique le président Sicilianos dans son article précité, je le cite, le droit international traditionnel était pour ainsi dire la branche la plus inhumaine du droit. L'individu, les groupes d'individus et les peuples deviennent peu à peu porteurs de droits et d'obligations en vertu de l'ordre juridique international. Le droit international cesse d'ignorer le facteur humain et évolue alors en une branche de plus en plus anthropocentrique. Et je pense que les propos de Michel Villet dans son livre « Le droit et les droits de l'homme » peuvent faire écho à ceux du président Sicilianos lorsqu'il relève que les déclarations des droits de l'homme, tant nationales qu'internationales, constituent, et je cite Michel Villet, « généralement un remède à l'inhumanité d'un droit qui avait rompu ses amarres avec la justice ». Cette reconstruction, au moins partielle, de l'ordre mondial autour de l'idée, et mon ami et prédécesseur Jean-Paul Costa parlait même d'idéologie des droits de l'homme, s'est traduit par un phénomène combinant les trois caractéristiques suivantes. Une humanisation du droit international, une objectivisation du droit international, une judiciarisation du droit international. J'aborderai successivement et brièvement ces trois manifestations de la place délibérément et souverainement confiée aux droits de l'homme par les États dans ce nouveau Rules-Based International Order issu de l'après-Deuxième Guerre mondiale qui consacre le passage d'un modèle relationnel, qui était encore celui de la Société des Nations, à un véritable modèle institutionnel. Ce modèle, d'ailleurs, connaîtra une phase d'expansion et de consolidation jusqu'aux années 90, après la chute du mur de Berlin. Je voudrais, pour évoquer cette humanisation du droit international, citer René Cassin. En consacrant l'ascension définitive de chaque être humain au rang de sujet du droit des gens, la Déclaration universelle constitue la base d'un nouveau droit international. Ce Ius Gentium renouvelé est inconciliable avec le système si longtemps triomphant qui réservait aux seuls États la qualité de sujet de droit international. Il postule l'admission de l'homme au rang de membre direct de la société humaine universelle et de sujet direct du droit régissant cette société. Et je rappelle que René Cassin avait combattu avec succès pour que la déclaration soit intitulée universelle et non internationale, afin de traduire que les droits qu'elle proclame ne dérivent pas seulement des relations entre États et du droit international public, mais constituent un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Une telle humanisation de l'ordre international se traduit par l'institutionnalisation d'un corpus juridique destiné à protéger les droits de l'homme, dont l'individu titulaire de droits fondamentaux opposable à l'État, opposable aux États, est le destinataire final. Cette volonté et cette capacité à transcender la dimension interétatique de l'ordre international caractérisent l'émergence de ce droit renouvelé qui tend vers la définition d'un droit international de l'humanité. Je mentionne ici, pour ne pas y revenir, les articulations croissantes à cet égard entre le droit international des droits de l'homme, le droit humanitaire et le droit international pénal. Sur cette idée d'International Law for Humankind, je renvoie particulièrement aux réflexions très stimulantes d'un juriste brésilien, Canchado Trindade, qui souligne notamment la double dimension de ce droit international de l'humanité, à la fois spatiale, à l'échelle mondiale, et temporelle, en y incluant les droits et les intérêts des générations futures. Et cette double dimension enseigne l'irréductible caractère universel. Par essence, les droits de l'homme sont universels, parce que chaque être humain en est titulaire, sans que l'histoire ou la géographie ne puissent les altérer, rappelait constamment Robert Badinter, qui poursuivait, et je le cite à nouveau, « L'universalité des droits de l'homme légitime la démarche qui consiste à compléter la garantie des droits par une construction intellectuelle dépassant le seul cadre étatique. Plus légitime, la protection internationale des droits de l'homme est une nécessité dès lors que l'État n'est pas infaillible. Il a certes pour mission la garantie des droits, mais lorsqu'il ne parvient pas à satisfaire complètement cette mission, qu'il est défaillant, voire menaçant pour les libertés fondamentales, alors le secours doit être trouvé ailleurs, dans l'application de normes internationales, au besoin par des juridictions internationales. Pour René Cassin, l'un des enjeux essentiels de la tragédie qu'il avait vécue était de savoir si l'homme devait rester ou redevenir une chose. Ce sont ses propres termes. Ou s'il ne devait pas se voir reconnaître cette qualité de personne du droit international, soumise comme telle à des obligations, mais ayant aussi vocation juridique à des protections. Et c'est cela que manifeste cette prolifération des instruments juridiques consacrés à la protection des droits de l'homme, d'une certaine manière. Après la Deuxième Guerre mondiale, qui avait montré que la destruction même de l'idée de démocratie et de la réalité de toute forme de démocratie par le totalitarisme s'était accompagnée de la plus radicale négation de la dignité humaine. L'état de droit au singulier est refondé sur la base d'un éclat de droit au pluriel. Deuxième phénomène, l'objectivation. Il s'agit de l'affirmation du caractère objectif du droit international des droits de l'homme qui se traduit par un certain nombre de caractéristiques, la non-réciprocité, la mise en place d'un système de garantie collective et notamment aussi la possibilité pour les organes de contrôle d'apprécier la validité des réserves que les États ont émises en ratifiant les traités. À cet égard est emblématique l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de 1951 sur les réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Mais je voudrais aussi citer un arrêt de la Commission européenne des droits de l'homme, Autriche et Italie, de 1961. Les obligations souscrites par les États contractants dans la Convention ont essentiellement un caractère objectif, du fait qu'elles visent à protéger les droits fondamentaux contre les empiétements des États contractants, plutôt qu'à créer des droits subjectifs et réciproques entre ces États. Je voudrais citer aussi un arrêt de la Cour européenne elle-même de 1978 dans une affaire interétatique, Irlande contre Royaume-Uni. La Cour y rappelle que la Convention déborde le cadre de la seule réciprocité et qu'en sus d'un réseau d'engagements synagmétiques bilatéraux, elle crée des obligations objectives qui, au terme de son préambule, bénéficient d'une garantie collective. Humanisation, objectivisation, judiciarisation. Seule la justiciabilité des droits en garantit le respect effectif. Cassin le rappelait, pour que l'idéal passe dans le réel, pour que les droits de l'homme deviennent les droits des hommes, les droits vécus des hommes, il faut la sanction de la méconnaissance de la règle. Le système de la Convention européenne des droits de l'homme réalise cet idéal. Non seulement faire de l'individu un sujet direct de droit international, mais le faire bénéficier d'une protection effectivement sanctionnée grâce au contrôle d'une juridiction. Une juridiction qui transperce l'écran de l'État pour atteindre l'individu, sujet immédiat du droit international, titulaire de droit comme de devoir. Et je cite une éloquente formule de Robert Badinter, qui ajoute « L'idéal d'une protection internationale effective semble presque atteint lorsque de véritables juridictions, statuant après une procédure contradictoire, opposant individus et États, viennent imposer à ces derniers, aux États, une interprétation obligatoire des normes internationales de droits de l'homme et sanctionner les violations constatées. » J'ai déjà cité les travaux préparatoires qui se sont tenus en quelques semaines en 1949 et 1950. Je voudrais le faire à nouveau car il témoigne de l'état d'esprit des fondateurs également à cet égard. Ce serait sans nul doute une étape dans l'histoire si les droits de l'homme étaient non seulement sauvegardés dans le cadre des frontières nationales, mais si au-delà de celles-ci, toute personne dont les droits humains ont été violés pouvait solliciter la protection d'un tribunal européen, M. Kissinger au nom de l'Allemagne. Si nous voulons véritablement une protection collective en Europe, une protection des droits et des libertés fondamentales, nous devons nous référer à la seule force qui est dans ces pays une autorité définitive, la justice, une cour, un tribunal, des juges, Pierre-Henri Tetjen. Et le 21 janvier 1959, les premiers juges de la Cour européenne sont élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. À l'occasion du 10e anniversaire de ce dernier, le Conseil de l'Europe, la Cour est installée solennellement le 20 avril 1959. En septembre de la même année, elle procède à l'élection de son premier président, qui est britannique, Lord McNair, ancien président de la Cour internationale de justice. René Cassin, premier juge, comme je l'ai dit, élu au titre de la France, lui succédera en 1965. En 1960, à l'époque, il y a deux organes, la commission, qui est un organe permanent et qui connaît la recevabilité des requêtes, et la Cour, qui siège uniquement quelques jours par mois en session pour connaître du bien fondé de celle-ci. C'est en 1960 qu'elle rend son premier arrêt, Lawless contre Irlande. Depuis cette date, la Cour européenne a réglé plus d'1 100 000 affaires à l'échelle de l'Europe. Le succès de cette judiciarisation de la protection internationale des droits de l'homme repose sur l'efficacité inégalée du droit de recours individuel, qui permet à chaque particulier de saisir directement la Cour après épuisement des voies de recours internes. Le principe directeur du système est en effet le principe de subsidiarité, que traduit sur le plan procédural cette exigence d'épuisement des voies de recours internes et sur le plan matériel, la reconnaissance aux États d'une certaine marge nationale d'appréciation. Ce principe assure le bon fonctionnement d'un système qui repose sur une responsabilité partagée entre les autorités nationales qui restent les premières garants du respect du droit et des droits et la Convention dont la Cour est chargée du respect dans le cadre d'une supervision toujours subsidiaire. Humanisation, objectivisation, judiciarisation, à travers ces trois phénomènes, les droits de l'homme conduisent à une hiérarchisation de l'ordre juridique international, pour revenir au titre de l'article précité du président Sicilianos. Et je voudrais le citer à nouveau. « Tant que le droit international réglementait de manière quasi exclusive les relations entre États, la volonté souveraine de ces derniers, combinée au principe d'égalité souveraine des États, avait conduit à la création d'un ordre juridique nivelé, sans valeur supérieure, nécessitant une protection accrue. Mais les institutions des Nations Unies, tout d'abord, notamment la Cour internationale de justice et la Commission du droit international, ont joué un rôle de premier plan dans l'émergence et la consolidation des notions d'obligation erga omnes et des normes de jus cogens, notamment. L'invocation et l'élaboration de ces notions ont conduit progressivement à la stratification des obligations et des règles internationales, c'est-à-dire à un système désormais régi par une logique de hiérarchisation. Si nous étions 35 ans en arrière, j'aurais peut-être terminé à ce stade ma communication au vu des constats qui précèdent. C'était un autre monde alors. Beaucoup ne le connaissent pas. C'était celui de la fin de l'histoire, prophétisé à tort par Francis Fukuyama. 1989 était l'année de la chute du mur de Berlin, celle des premières élections libres en Pologne depuis la Deuxième Guerre mondiale, celle de la révolution de velours en Tchécoslovaquie, accompagnée de la chute de tous les régimes communistes dans les pays d'Europe de l'Est. L'optimisme régnait à cette époque. Et en cette année de bicentenaire de la Révolution française, nous étions convaincus que commençait, pour ne jamais devoir se terminer, l'expansion des tas de droits et le progrès des droits humains, non seulement sur notre continent, en Europe, mais aussi dans le monde entier, sur le fondement et grâce aux acquis de ce Rules-Based International Order mis en place après 1949. Je ne voudrais pas tresser un tableau trop idyllique. 1989 fut aussi l'année de la répression en Chine sur la place Tiananmen. Ce fut aussi l'année de l'appel à l'exécution de Salman Rushdie par les autorités iraniennes. Mais alors, plus fort était l'espoir que le monde s'améliorait et que partout, grâce au progrès de la raison, du droit et de la morale, la démocratie gagnait du terrain, portant avec elle les idéaux universels de paix et de justice. L'espoir fut de courte durée. Dès 1992 débuta le siège de Sarajevo. Et depuis lors, notre continent européen ne cesse d'être fracassé par de nombreux conflits entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, entre l'Ukraine et la Russie. Et à l'échelle mondiale, l'ordre établi depuis 1945 est déstabilisé par des guerres, de nombreuses guerres, et par des mises en cause de toute forme de l'idée même d'une régulation internationale. Cette mise en cause s'accompagne de critiques qui portent particulièrement sur l'idée d'un ordre international articulé autour des droits de l'homme. Il y a des critiques qui ont toujours existé et qui sont même, d'une certaine manière, inhérentes à l'idée même des droits de l'homme. Des critiques conservatrices, je pense à Edmund Burke, théologico-politiques, Louis de Bonald, Joseph de Maistre, nationalistes, Carl Schmitt, d'autres de l'autre côté, des critiques qui viennent du camp progressiste, je pense à Jeremy Bentham, voire révolutionnaire, Marx, s'y ajoutent de nouvelles formes de critiques contemporaines. La contestation du statocentrisme, d'abord, qui fait de l'État le régulateur final des rapports sociaux légitimes. La contestation de l'anthropocentrisme, qui est le cœur même de l'humanisme juridique et qui fait de l'individu la source de toute valeur. Celle aussi, depuis les années 70, de l'occidentalocentrisme. Les valeurs universelles sont en effet liées à un moment et à un endroit où elles ont été proclamées. Et elles sont parfois dénoncées par un certain nombre de personnes, qu'il s'agisse de la déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776, de notre déclaration de 1789, ou encore de la déclaration universelle de 1948, comme le cheval de Troie des intérêts bourgeois de l'Occident. Nous ne pouvons pas écarter toutes ces critiques d'un revers de main. Nous devons les prendre au sérieux pour y apporter des réponses convaincantes. Et ce, d'autant plus que s'y ajoutent, depuis toujours, des critiques d'une grande acuité qui, d'un point de vue politique et juridique, contestent les fondements théoriques de cette construction systémique articulée en tout ou partie autour de l'idée des droits de l'homme. Pour ne citer que quelques représentants français de ce courant d'intellectuels, dans le registre du droit international public, je pourrais faire référence à Alain Pellet et à l'approche sceptique qu'il développe dans son fameux article « Droit de l'hommisme et droit international ». Dans un registre qui est celui de la théorie du droit, je pourrais me référer, je l'ai déjà cité, à Michel Villet. Et dans un registre plus politique, à Marcel Gauchet, qui, après avoir proclamé que les droits de l'homme ne sont pas une politique en 1980, 20 ans plus tard, on vient à un constat critique pour déplorer que les droits de l'homme sont devenus une politique. Ces débats sont légitimes. Ces débats sont même parfois stimulants. Mais ce qui est préoccupant, c'est que s'y ajoute maintenant un courant beaucoup plus radical de contestation qui, au nom de la démocratie, au nom de la souveraineté des États, au nom de la volonté populaire, fait que l'adhésion à l'État de droit à l'échelle nationale, au multilatéralisme à l'échelle internationale, s'érode. À différents égards, se manifeste de plus en plus une même méfiance envers tous les systèmes de check et balance. Et la recherche du juste équilibre, qui est l'œuvre par essence de toute justice, apparaît désormais bien souvent davantage l'expression de compromissions illégitimes que la traduction d'un compromis raisonnable entre des intérêts et des droits concurrents. Partout où je me rends, en Europe, j'étais à Chypre la semaine dernière à l'occasion du Forum des Cours suprêmes judiciaires de l'Union européenne. Même au-delà, j'étais à Brasilia la semaine d'avant au Congrès international sur l'état de droit et l'indépendance judiciaire. Les témoignages des juges nationaux et internationaux se font tous l'écho du mouvement de plus en plus rapide, de plus en plus violent, de déconstruction de l'ordre que l'on pensait durablement établi. La déstabilisation des relations internationales. Et pour m'en tenir au continent européen, je rappellerai que la guerre en Ukraine dure depuis plus de 4 ans, depuis février 2022. Cette déstabilisation s'accompagne de la remise en cause des piliers sur lesquels reposent toutes les démocraties, l'état de droit, la séparation des pouvoirs, la confiance dans la justice. Le populisme antijudiciaire ne se limite plus à l'habituelle dénonciation d'un prétendu gouvernement des juges. Il nourrit un procès en illégitimité démocratique qui autorise les remises en cause institutionnelles comme les attaques les plus directement personnelles. Mais je veux aussi partager avec vous aujourd'hui que je perçois chez tous les acteurs, chez toutes les actrices de ce Rules-Based International Order, le même optimisme de la volonté, la même énergie positive mobilisée pour pouvoir tenir le rôle qui nous a été confié, malgré le contexte, malgré les difficultés, pour être à la hauteur de l'héritage des fondateurs et architectes de cet ordre, pour faire du rêve de nos prédécesseurs la réalité de nos successeurs. À ce titre, permettez-moi de citer les propos tenus en mars dernier par l'attorney général du Royaume-Uni, Richard Hermer. Le Royaume-Uni, pays du Bill of Rights, pays du droit international, où précisément en ce moment même se développent les critiques les plus radicales contre toute cette idée de régulation par le droit. C'est cette génération, c'est l'attorney général que je cite, qui a connu de première main ce qui arrive lorsqu'il n'y a plus de loi et que les contraintes morales laissent la place à la violence et à la force, qui a construit la régulation de l'après-guerre. « Cela me stupéfait, dit-il, que j'entende que leurs aspirations seraient obsolètes, alors qu'ils ont bâti cette architecture de droit international précisément pour un moment comme celui que nous traversons lorsque le monde redevient fragile. » 2026. Cela fait écho à ce que disait Pierre-Henri Tedjène en 1950, expliquant le but de cette institution, je le cite, c'est de cette épouvante que nous voulons nous protéger. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui à reconstruire, y compris au travers d'une pédagogie capable d'en appeler à la fois à la tête, à la raison et au cœur des gens. Nous devons reconstruire une situation, les conditions pour que l'adhésion à un système de règles fondé sur un ensemble de valeurs soit à nouveau partagé par toutes et tous. Il nous faut reprendre, alors que nous célébrons le 50e anniversaire de sa disparition, la route de René Cassin, fantassin des droits de l'homme, soldat de la paix, patriote de l'universel. Je le cite en 1967, « La souveraineté absolue des États se concevait au temps où les hommes n'étaient que des sujets et où l'interdépendance des diverses parties de la Terre n'existait pas. Dans le monde d'aujourd'hui, la souveraineté de l'État exprime toujours légitimement la volonté d'indépendance politique à l'égard de tout autre État. Mais elle ne saurait être ni exclusive ni illimitée. L'État est soumis à la règle de droit, non seulement à l'égard de ses pareils, mais également vis-à-vis des individus et de la collectivité humaine dans son ensemble. Voilà qui me mène maintenant à traiter directement de cette question cruciale de la souveraineté des États et des limites qui peuvent y être apportées au nom même de la protection des droits fondamentaux, par dérogation au principe cardinal de non-ingérence. Cassin, toujours lui, rappela à nombreuses reprises à quel point, jeune juriste, appartenant à la délégation française de la Société des Nations, il avait été édifié par le départ en 1933 de l'Allemagne, au motif que, pour citer les mots de Goebbels, « charbonnier est maître chez lui ». Voilà ce qu'écrit Cassin, cette scène qui a marqué son engagement. « Je vois la scène comme le refus du droit de regard de l'humanité, à partir duquel le crime contre les droits de l'homme en Allemagne est devenu le crime contre les droits de l'homme des autres nations. C'est la justification à la dérogation au principe de non-ingérence. Le problème est de savoir si le respect que nous devons avoir pour l'indépendance des États exige qu'un État puisse massacrer impunément certains de ses propres ressortissants sans que l'humanité s'en émeuve. Et que disait encore Cassin en 1968 en recevant son prix Nobel de la paix ? On entend encore trop souvent des conducteurs de peuple formuler au sujet de la souveraineté absolue exclusive de l'État sur les êtres humains relevant de sa juridiction des principes qui risquent de nouveau de mettre le monde en état d'anarchie et le plonger dans des guerres en apparence locales, mais en réalité attentatoires à l'humanité entière. La compétence des États sera toujours la base, elle demeurera primordiale, mais elle ne sera plus exclusive. Et pour bien comprendre les limites mêmes de cette compétence de l'État, il faut en revenir à la finalité de l'État. Je cite à nouveau cette fois-ci Pierre-Henri Tedjène. « La finalité de l'État, disait-il, comme de toute autre structure sociale, n'est pas sa propre grandeur, sa puissance ou ses richesses, mais l'épanouissement individuel de chaque personne soumise à son autorité dans le respect de sa dignité et de sa liberté. Une telle conception de la fonction première de l'État renvoie à la dimension matérielle du rule of law qui va au-delà du respect formel de la règle de droit, car elle implique cette dimension matérielle, une garantie substantielle qui se traduit par la sanctuarisation des droits fondamentaux. Des droits fondamentaux parce qu'à la fois fondés par la personne humaine et au fondement de toute humanité. Les droits de l'homme sont avant tout les droits de l'humanité, ce qui signe leur caractère universel. La conception politique des droits de l'homme, chère à Hannah Arendt, nous invite à échapper aux deux écueils suivants. Celui du relativisme, qui affaiblit leur portée et leur capacité à structurer un récit collectif commun fondé sur une dignité partagée. Mais de l'autre côté, celui du monisme, qui cherche à confondre universalité et uniformisation en niant que la protection des droits puisse s'accorder avec la pluralité des mondes. Œuvrer en vue de l'universel, ça n'est pas un dogme abstrait, ça n'est pas une idéologie de bureau, c'est un idéal commun, inscrit dans le préambule de la Convention européenne dès 1950. Loin de s'imposer par l'effacement des différences, il se construit par leur reconnaissance. Et je voudrais citer Mireille Delmas-Marty, lorsqu'elle dit « Pour qu'il y ait du commun, il faut qu'il reste des différences ». Dans son ouvrage « Vers un jus commune universalisable », elle plaide, et je la cite, « pour un pluralisme qui rapproche les différences sans les supprimer, harmonise la diversité sans la détruire et pluralise l'universel sans le replacer par le relatif. » La dérogation au principe de non-ingérence qu'organise le système de la Convention européenne avec une protection sans équivalent en termes d'effectivité à l'échelle mondiale, grâce à la surveillance mutualisée qui a été confiée à la Cour, que j'ai l'honneur de présider, repose sur cette idée d'une garantie collective apportée à des droits universels qui représentent un patrimoine commun d'idéal et de tradition. Revenons encore il y a plus de 75 ans, et je cite maintenant M. Roberts au nom du Royaume-Uni. Cette convention signifie que la communauté européenne dans son ensemble garantit le maintien dans tous ses États membres d'une démocratie vivante et que la liberté de chacun dans un pays quelconque intéresse tout le monde. La liberté de chacun dans un pays quelconque intéresse tout le monde. Mais il faut garder à l'esprit que la Cour de Strasbourg, chargée d'interpréter et d'appliquer cette convention en qualité de Cour constitutionnelle des droits de l'homme à l'échelle européenne, veille toujours à ce que l'ordre public européen, dont elle est à cet égard l'ultime garante, embrasse et non exclut les identités constitutionnelles des États parties. Tejen le dit dès le début, le fond commun de nos législations nationales, les principes généraux qui se dégagent de nos législations, permettront de définir à coup sûr le contenu pratique de chacune de ces libertés. Loin de constituer un îlot de résistance à l'application d'un droit uniforme et revêtu de l'effet direct, comme c'est le cas dans le cadre du droit de l'Union européenne, les identités constitutionnelles des États sont partie intégrante de l'espace juridique de la Convention européenne. Il s'agit toujours de définir, via des standards qui sont autant de dénominateurs communs, ce qui rassemble dans le respect des différences, dans le respect de cette biodiversité historique, politique et juridique propre à chacun des 46 États membres du Conseil de l'Europe. À cet égard, cette marge d'appréciation dont j'ai parlé tout à l'heure, que nous reconnaissons aux États, ne doit pas être comprise comme, d'une certaine manière, une franchise d'action qui leur serait laissée, mais plutôt comme l'expression de la prise en considération des spécificités liées au contexte national dans l'interprétation de la Convention. Une prise en compte qui s'effectue de manière plus ou moins large, selon l'objet du litige, la nature du droit en cause et l'existence ou non d'un consensus européen en la matière. C'est une précision que je crois particulièrement importante de relever dans les débats actuels. Oui, comme l'expliquait Pierre-Henri Tejen, il s'agit de limiter la souveraineté de l'État par le droit. Mais je veux le dire, la protection de la souveraineté de l'individu au moyen de la protection de ses droits fondamentaux sera assurée dans le cadre du système conventionnel toujours en même temps que sera garantie la souveraineté de l'État. Il ne faut pas penser l'un contre l'autre, mais l'une avec l'autre. Le système conventionnel est anthropocentré, je l'ai dit, il est tourné autour de l'individu, il est aussi statocentré, c'est-à-dire organisé autour de l'État. Autre point centré, mais en aucun cas organisé pour un individu isolé, replié sur une conception autocentrée qui risquerait de conduire à une tyrannie des subjectivités propice aux dérives vers le relativisme. Dans notre architecture conventionnelle, dans notre jurisprudence, les droits s'accompagnent toujours de devoirs, y compris d'un devoir de solidarité sociale. C'est la Grande Chambre, dans une affaire tchèque, Vavrishka, de 2021, qui l'a rappelé à propos des vaccinations obligatoires pour l'école. Les droits peuvent connaître de restrictions ou des limitations, sauf s'ils sont absolus, à condition qu'elles soient justifiées par le respect des droits d'autrui ou la poursuite d'intérêts publics constituant des buts légitimes. Là aussi, dès l'origine, cette pensée des droits et des devoirs ensemble a été conceptualisée. Je cite le représentant de la Grèce, M. Makas, en établissant nos droits, établissant aussi nos devoirs. Anthropocentré, mais dans certaines conditions et sous certaines limites. Statocentré aussi. Je le disais, il n'y a aucun face-à-face organisé entre l'individu et l'État dans le système de la Convention. Il y a un vis-à-vis entre le titulaire des droits, l'individu, et le débiteur de ces droits, l'État, qui est au cœur du système. Il est au cœur du système d'abord parce qu'il est en amont même de ce système. La Convention est l'expression d'un choix souverain, celui des États qui ont décidé en la signant, après l'avoir élaborée, de s'engager à respecter pleinement les droits et libertés, qui ont choisi souverainement de couper une partie de leur souveraineté, d'une certaine manière, pour l'exercer ensemble dans le cadre de cette garantie collective. En amont, il y a l'État. Tout au long du mécanisme de contrôle judiciaire, ensuite, il y a l'État. L'efficacité de ce contrôle repose par la combinaison du droit de recours individuel, je l'ai dit, et du caractère obligatoire des arrêts de la Cour. Mais permettez-moi de rappeler que cette Cour est composée de 46 juges élus, un au titre de chacun des États, sur une liste présentée par les États, et que l'élection est faite par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui est composée de délégations des 46 parlements nationaux. On retrouve l'ombre portée de l'État tout au cours du contrôle judiciaire. Et en aval, puisque ce sont les États qui assurent au comité des ministres l'exécution des arrêts obligatoires de la Cour. Loin de consacrer une atomisation du social, loin de consacrer le règne d'individus isolés dans leur propre indignation ou leur propre égoïsme, la Convention, fondée sur cette conception politique des droits de l'homme, institue donc une garantie collective au service de la protection des droits individuels, mais à travers cette protection, aussi le respect, la garantie de nos vies dans une société démocratique fondée sur des valeurs communes, sur une idée de progrès qui est marquée dans le préambule même de la Convention et sur les idéaux partagés de paix et de justice. En protégeant les droits individuels, la Cour garantit les conditions d'un vivre ensemble et protège la souveraineté des États. Permettez-moi de revenir un instant sur un arrêt historique. Un arrêt dans une affaire interétatique Pays-Bas et Ukraine contre Russie que la Grande Chambre a prononcé le 9 juillet 2025, il y a un an bientôt. En constatant dans cette affaire des violations systémiques et multiples des droits protégés par la Convention imputables à la Fédération de Russie survenues en Ukraine depuis 2014 s'agissant de la Crimée, et y compris depuis février 2022, pour cette période intercalaire où la Cour a encore compétence ratione temporis, février à septembre 2022. La Cour a été, et reste à ce jour, la seule juridiction internationale à avoir engagé la responsabilité de la Fédération de Russie dans l'ordre international. Cet arrêt, qui relève l'intention délibérée de la Russie d'effacer, ce sont les termes de l'arrêt, l'identité juridique de l'Ukraine, en s'en prenant aux droits et libertés des individus, illustre la capacité de la Cour à venir avec les instruments du droit, en mobilisant la force de valeurs universelles, grâce à la puissance de l'œuvre de justice, au soutien de la souveraineté de l'Ukraine, balafrée par les atteintes portées aux droits fondamentaux de ses ressortissants. Souveraineté de l'individu et souveraineté de l'État vont ensemble. J'en arrive au terme de ma communication. Pour conclure, je voudrais faire mienne la récente préconisation de mon amie, l'ancienne vice-présidente de la Cour, juge élue au titre de l'Allemagne, Angelika Nussberger. Dans son récent article « International Law and International Standards in Times of Geopolitics », elle en appelle, selon le modèle de la démocratie combative chère à la République fédérale d'Allemagne, à la définition d'un droit international combatif et militant qui puisse contribuer à sa propre survie en apportant une réponse effective à ceux qui se réclament du système pour l'affaiblir. Pour ce faire, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux, aux piliers du système : droits de l'homme, rule of law, démocratie. C'est ce que je me suis efforcé de faire en quelques minutes aujourd'hui avec vous, intimement convaincu que les droits de l'homme n'ont pas seulement fondé la reconstruction de l'ordre mondial depuis 1945, mais qu'ils constituent la pierre angulaire de la refondation qu'appellent les tentatives actuelles de déconstruction, autour des trois principes cardinaux suivants. Le caractère universel des droits fondamentaux et leur indisponibilité. Il s'agit là du fond commun de l'humanité, fondement d'un jus gentium revisité. Un régime de droit particulier, tant à l'échelle nationale qu'internationale, ce rule of law, qu'on traduit dans la Convention par prééminence du droit, et qui va au-delà de rule by law, c'est-à-dire l'État régi par la règle, ou même d'État de droit. Il ne s'agit pas seulement, je l'ai dit, de respecter formellement les règles et le droit. Il s'agit d'un régime substantiel qui comprend toujours la recherche du juste. D'une certaine manière, le quid iuris ne devrait plus jamais s'exprimer, se rechercher ou être atteint sans le quid ius. Troisième proposition, la souveraineté des États qui sont et resteront les acteurs indépassables de l'ordre international, revêtus d'une légitimité démocratique inégalable, doit être pensée en même temps que la souveraineté des individus. Le respect des identités constitutionnelles nationales doit être concilié avec le respect de l'identité constitutionnelle de la personne que constitue la dignité humaine. C'est à cet égard qu'une protection internationale des droits de l'homme s'impose comme la condition du juste équilibre indispensable à la paix et à la justice. Et c'est la dernière fois, mais je crois qu'on ne cite jamais assez, René Cassin le disait, je le cite, « Les droits de l'homme sont une des rares pièces du grand système qui peut permettre d'organiser la paix. D'abord, la paix civique interne. La protection des droits de l'homme est un grand élément de la paix à l'intérieur du pays. Mais elle est peut-être également, et elle est, disait-il, un instrument de la paix internationale en réprimant les attentats, soit contre les individus, soit contre les collectivités. » Dans un magistral ouvrage, un roman à l'écriture poétique, La Septième Croix, qui raconte l'histoire d'un évadé d'un camp de concentration en Allemagne, la romancière Anna Segers conclut en ces termes. « Nous sentions tous combien les puissances extérieures pouvaient atteindre l'homme jusqu'au plus profond de lui. Mais nous sentions aussi qu'il y avait là en lui quelque chose d'inviolable et d'indestructible. C'est cette part de l'homme qui nous appartient de faire respecter, quelles que soient les époques, quels que soient les lieux, avec la même foi dans le fait que l'humanité est une, tout entière, et que la protection effective des droits de l'homme est un horizon à toujours poursuivre, un champ dont les frontières ne doivent jamais cesser de s'élargir, un objectif universel fait pour nous rassembler et non nous diviser. Je vous remercie de votre attention.
Monsieur le Président, je vous remercie infiniment de cette présentation brillantissime.